Ok, on va continuer notre étude dans les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. On était dans la leçon sur la discipline de l'évangélisation. On va terminer cette leçon-là ce soir. On avait vu que l'évangélisation, c'est une discipline qui est commandée par le Seigneur lui-même. Donc, c'est pas une activité qui est laissée à notre discrétion. Si ça te tente, fallait. Si ça te tente pas, fallait pas. Ça marche pas de même. Le Seigneur nous a commandé de le faire. Si on le fait pas, on est tout simplement dans la désobéissance. Et on est dans l'état que le Seigneur reproche dans l'Apocalypse lorsqu'il dit tu as perdu ton premier amour. C'est perdre notre premier amour, c'est trouver notre confort plus important que de risquer de parler du Seigneur à d'autres puis d'être mal reçu. C'est ça. Alors, quand on regarde, moi, quand je regarde ma propre vie avec du recul, je m'aperçois que ça marche en dents de scie. Il y a des bouts de ma vie que je suis pas mal zélé, puis il y a d'autres bouts de ma vie, on dirait que ça tombe, ou que je suis pas mal moins zélé. Mais quelque part, c'est pas la faute du Seigneur. Si je suis moins zélé, c'est moi qui ai le problème. C'est pas le Seigneur qui m'a pas donné tout ce qu'il fallait pour que je sois zélé à l'année. Alors, tout simplement, c'est bon de se faire rappeler que la discipline de l'évangélisation, c'est pas quelque chose qui nous est laissé à notre liberté. On est des chrétiens, on appartient au Seigneur, il a le droit de nous commander ce qu'il veut. On lui appartient. Donc, une des choses qu'il veut qu'on fasse, qu'il nous commande de faire, c'est justement d'évangéliser. Alors, on avait vu quelques versets là-dessus. J'avais juste revisé un petit peu la traduction de l'évangélisation selon G.I. Packer. G.I. Packer, c'est un auteur très, très, très connu au Canada. Et il n'y a presque pas un auteur qui veut écrire un livre qui ne demandera pas à G.I. Packer d'écrire la préface. Alors, ça vous donne une idée que c'est un homme qui a beaucoup d'influence dans le milieu chrétien, au Canada, aux États-Unis et même dans le monde entier. Voici quelle est la définition que lui donne de l'évangélisation. L'évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit à des pécheurs, afin qu'ils puissent venir mettre leur confiance en Dieu par lui, pour le recevoir en tant que leur sauveur et le servir en tant que roi, en communion avec son Église. J'aime bien sa terminaison. Thomas dit, il est en train de dire, oui, il faut amener des gens à l'Église, il faut amener des gens au Seigneur, mais c'est dans le but, comme il dit, de le servir en tant que roi, en communion avec son Église. Alors, un chrétien se doit de vivre sa foi avec des frères et des sœurs en Église locale. C'est ça, la volonté de Dieu. Alors, quand on emmène quelqu'un au Seigneur, on peut pas dire, il a entendu l'Évangile, donc, à quelque part, le Seigneur va s'en occuper. Ça marche pas de même, là. Le Seigneur nous dit d'en faire des disciples, donc à quelque part, celui qui amène quelqu'un au Seigneur, il a la responsabilité de le former, d'en faire un disciple. Parce qu'on a toute tendance à dire, ben là, moi je l'ai amené au Seigneur, pasteur, toi, occupe-toi. Oui, il y a de la vérité là-dedans, mais tu serais supposé de prendre une part plus active que ça dans le développement du fait qu'il devient un disciple. Alors, on avait vu que c'était vraiment... On fait juste reviser un verset ou deux, dans le sens que Matthieu 28, juste pour montrer vraiment que c'est un ordre du Seigneur et c'est pas quelque chose qui est laissé à notre discrétion. Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » C'est là l'aspect de notre devoir d'en faire des disciples. Alors, pour pouvoir faire un disciple de quelqu'un, ça implique qu'on ait des connaissances nous-mêmes. Alors, tout se tient. Hein? On parlait de nos devoirs envers la Bible. Si tu connais bien ta Bible, tu vas être plus capable de faire un bon disciple qu'un autre qui connaît presque rien à sa Bible, même des fois après des années, c'est surprenant des fois. Mais il y a toujours quelque chose de me surprendre de voir que des fois après 25 ans, quelqu'un n'a même pas encore lu sa Bible d'un couvert à l'autre. Moi, ça me fait frémir, ça. Moi, c'est quelque part, c'est pas normal. OK, on avait vu que Donc, c'est un devoir. La deuxième chose qu'on avait vue, la deuxième idée qu'on avait regardée la semaine dernière, c'était que l'évangélisation, c'est une discipline habilité. En anglais, on appelle ça « empowered ». C'est comme le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous donne la puissance, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité, c'est lui qui nous rend zélé. Autrement dit, quand on se rend compte qu'on n'a plus de zèle, faut pas chercher à le développer nous autres mêmes, parce que ça avancera pas bien ben loin. Faut aller chercher le zèle là où il est. La grâce de Dieu, c'est lui qui peut nous remettre sur les rails, et souvent c'est en utilisant les moyens de grâce d'aller au culte, prier, se remettre à lire sa Bible, etc. Alors, on avait vu que souvent, un des grands problèmes qu'on a pour évangéliser, on a tous le même problème, ça se ressemble pas mal tout d'un chrétien à l'autre, c'est la peur. On a peur. On a peur d'être mal reçu. On a peur de se faire chanter des bêtises. Et le Seigneur nous en donne des occasions, puis on en rate combien. C'est ça le problème. C'est on perd notre premier amour, on a peur de se faire dire. C'est donc bien fatiguant avec ton évangile, tu vois. Se faire dire ça, c'est pas tellement agréable. Hein? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas bien ça, me faire dire ça. Moi. OK. on avait vu aussi qu'une des raisons pour laquelle on n'annonce peut-être pas l'évangile autant qu'on devrait, c'est le côté solennel de la vie éternelle. On ne prend pas conscience de ça souvent. Moi, j'ai remarqué ça dans ma propre vie. Des fois, tu vois un de tes enfants qui n'est pas sauvé, ça te fait mal au cœur, mais si tu viens juste d'entendre un sermon sur l'enfer, puis qui t'a touché profondément, là, puis là, tu penses à ton fils, et là, ça prend toute une autre dimension. Puis pourtant, la dimension est tout le temps la même. Mais si, on dirait que des fois, notre cœur comprend pas vraiment dans quel état ils sont, puis qu'est-ce qui arrive. Disons qu'ils ont un accident, ils s'en vont en auto, là. Paf! T'entends parler, ils sont décédés. Bien, si on est des véritables croyants, ils ne sont pas sauvés, on le sait où ils sont. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme je disais tantôt, c'est la raison pour laquelle on se devrait de multiplier, demander au Seigneur de multiplier notre zèle. On avait regardé aussi, le dernier point qu'on regarde ce soir, c'est qu'est-ce que le succès dans l'évangélisation? Disons que quelqu'un aurait évangélisé toute sa vie, il a distribué, disons, 100 000 traités. Puis sur les 100 000 traités, il n'a même pas vu une personne venir au Seigneur. Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas eu de succès? Le succès, il s'évalue de quelle façon? Est-ce qu'il s'évalue par le nombre de têtes que tu as emmenées à l'église? Parce que si c'est ça, du succès, on a juste à emmener des joueurs de guitare, là, puis jouer de la musique ici le dimanche. Je vous le dis, moi, d'ici à un mois, on va être obligé d'ouvrir le deuxième, puis peut-être ouvrir au sol. Parce que ça, c'est bien populaire. Mais ça, c'est des têtes, c'est pas nécessairement des personnes régénérées. Personnes régénérées, ça, c'est une autre affaire. Alors, qu'est-ce que le succès? Alors, on se doit, nous, comme chrétiens, de pas compter le succès en termes de tête. Parce que sur le nombre de traités que tu as distribués dans le passé, toi, tu peux considérer, il n'y a pas un qui m'a appelé, il n'y a pas un qui m'a donné signe de vie comme de quoi il est sauvé, donc tu penses que tous tes efforts ont été inutiles. Mais est-ce que c'est le cas? On le sait pas. Alors, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle à partager sa parole d'une façon constante et pas arrêtée. C'est ça notre problème, c'est qu'on marche en dedans d'ici. On marche tout le temps de même. Puis tous les chrétiens que j'ai connus sont tous pareils. C'est rare que quelqu'un ait zélé l'année, puis que... C'est un fait, là. Alors, on se doit d'obéir au Seigneur, tout simplement, parce qu'on prend des versets comme Romains 1, 16, Paul il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. » Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, des versets qu'on a entendus des dizaines, des centaines de fois, mais c'est bon de s'en souvenir. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ça on le dit souvent, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. Le mot-clé de tous ces deux versets-là, trois versets, 8, 9, 10, c'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. Alors, ce que Dieu veut, notre part à nous, c'est de prendre la poche de semence, se la mettre autour du cou, puis semer. Tu sèmes, puis la récolte, ça ne t'appartient pas. C'est pas toi qui vas décider si une semence pousse ou si une semence ne pousse pas. C'est le Seigneur, c'est le don de Dieu. Très important de se souvenir de ça, parce que quand on se souvient de ça, on met les résultats de l'évangélisation dans les mains du Dieu souverain, et non pas dans les mains de nos efforts à nous. Très important aussi, Romains 10, verset 17. Pour ça, je trouve que c'est important, comment vous reteniez juste ça ce soir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvent, quand on évangélise, on est porté à utiliser nos paroles. Ah ben là, c'est le salut, c'est ça, puis on prend nos paroles. Apprends des versets par cœur sur le salut. Puis quand tu parles du salut, la foi vient de ce qu'on entend, mais pas nécessairement ce qu'on entend des paroles des hommes, la parole de Dieu. Alors, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 8, 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance... » Ça, c'est des versets d'une telle profondeur. Juste étudier Romains 8, versets 29 et 30, tu pourras en avoir pour des mots. Si tu l'étudies d'aplomb, je le dis. Alors, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Voyez-vous, quand on dit que le Seigneur, les épreuves qu'il nous envoie, les choses difficiles qu'il nous fait vivre, il y a un but, c'est ça que ça dit, ça. Il nous a prédestinés à être conformes. Quand tu dis que quelque chose est conforme, c'est ressemblant. Il veut nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est un énorme contrat pour nous qui est bourré de péchés. Il veut nous emmener à ressembler à Christ. Alors, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, ça c'est le fameux chaîne d'or, les cinq... ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'auteur que j'utilise, il utilise Spiritual Disciplines for the Christian Life. L'auteur, c'est Donald S. Whitney. Il amène une idée intéressante nous faire comprendre que l'évangélisation, c'est donner des traités, c'est parler, donner des évangiles, c'est toutes sortes de moyens pour faire connaître la personne de Christ et son œuvre. Mais lui, il amène une illustration, puis c'est biblique aussi. L'illustration est la suivante. Puis lui, il dit que c'est une alliée très importante dans le domaine de l'évangélisation. Je suis parfaitement d'accord. Il nous raconte que dans l'État américain de l'Arkansas, pourquoi il dit ça? C'est parce que lui, il vient de l'Arkansas. Alors, il dit qu'il y a un restaurant à la croisée de l'autoroute 71 qui n'a pas d'annonce extérieure particulièrement attirante. Pas une grosse annonce, là. Et qui sert du barbecue. Et elle attire un très grand nombre de clients à cause qu'il est bien placé et c'est l'odeur. Le monde passe, puis ça sent le barbecue. Qu'est-ce qui attire le monde? C'est pas l'annonce, c'est l'odeur. Où qu'il veut nous emmener avec son annonce, c'est avec son idée, c'est que les Saintes Écritures nous disent que les croyants peuvent aussi avoir une odeur attirante envers les autres. On trouve ça dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, les versets 14 à 17. « Or, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle donnant la mort, et à ceux-là, une odeur vivifiante donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme beaucoup le font, car nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, comme de la part de Dieu devant Dieu en Christ. Alors, autrement dit, tu es en train de dire qu'il y a un degré, il y a quelque chose d'important dans notre degré de sanctification. Autrement dit, plus les gens nous regardent vivre et plus ils voient qu'on ressemble à Christ, plus ça les attire, c'est attirant. Souvent, j'ai entendu ça dans des témoignages, des gens dire, « Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme les autres. » Ils sentent quelque chose, ils voient quelque chose qui n'est pas comme les autres. Et ça, ça a un rapport direct avec ton degré de sanctification. Si tu as un degré de sanctification très élevé, puis tu parles de Christ à quelqu'un, l'image n'est pas discordante. Tu parles de Christ, et Christ est doux. Mais si notre témoignage personnel ne cadre pas avec ce qu'on annonce, alors l'odeur de Christ, là, moi je suis d'accord avec lui de dire oui, il faut aussi que tu dégages une odeur, l'odeur du Seigneur Jésus-Christ. Les gens, on pense qu'ils ne voient pas ça, et ils le voient très clairement. Alors, troisième point qu'on voulait regarder, c'est l'évangélisation, une discipline qui se doit d'être pratiquée. Comme le dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Comment on devient un bon évangélisateur? En évangélisant. Alors, c'est aussi en évangélisant qu'on devient un disciple obéissant au commandement du Seigneur d'évangéliser. Matthieu 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau. » Les lampes, c'est nous. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Colossiens chapitre 4, versets 3 à 6. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, à cause de qui je suis dans les chaînes, et que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. C'est intéressant, c'est la phrase qu'il est en train de dire. Priez pour que Dieu nous ouvre une porte. Et autre chose, et que je fasse connaître, que je le fasse connaître, Christ, comme il faut que j'en parle. Et qu'est-ce qu'il dit de faire? Que tu vas faire ça par toi-même? Priez. Priez pour que Dieu vous donne ça, cette capacité-là. Et dans le verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Alors, on se devrait de faire des efforts pour avoir des rapports avec les incroyants afin que nous puissions leur partager l'Évangile. On peut le demander au Seigneur de nous libérer de la peur d'être en contact avec des personnes non converties. C'est à eux qu'il faut annoncer l'Évangile. Alors, on peut, par exemple, lui, il donne l'exemple dans le livre, de demander à des voisins pour voir si on peut prier pour eux dans leurs difficultés. Je l'ai jamais essayé, mais lui, il dit que ça marche. Il dit, j'avais des voisins, puis il dit, j'allais les voir, puis je leur demandais, si vous avez des difficultés, nous, on a une soirée de prière le mercredi, est-ce que vous aimeriez ça qu'on intercède pour votre difficulté? Il dit, c'est surprenant de voir comment que le monde veut que tu... Alors, des fois, c'est des petites occasions comme ça, mais on emmène Dieu dans l'esprit des gens. Vous êtes en difficulté, nous, on fait une soirée de prière, voulez-vous qu'on intercède pour vos difficultés? Des fois, ils vont te la partager, les difficultés, des fois, pas nécessairement, mais on peut inviter les gens à un repas chez nous. Quand on a eu, il y a deux ans, je pense qu'il était à Actonville, il y avait un ancien président de Harbor, ARBCA, c'est Association of Reformed Baptist Churches of America. Toutes les églises réformées baptistes américaines appartiennent à cette association-là. À peu près 70 églises. L'ancien président d'ARBCA, c'est un gars, là, que si vous voulez avoir honte, là, quand il parle d'évangélisation, allez le voir. Il va vous faire rentrer dans votre chaise, puis vous allez filer petit quand vous allez sortir. Mais il raconte sa propre expérience comme de quoi que lui aussi a connu des moments où que ça a descendu. Mais il raconte quoi faire pour remonter à la côte. Très intéressant. Aux États-Unis, lui et sa femme à Atlanta, Georgia. C'est une des villes les plus violentes d'Amérique du Nord. C'est très violent, Atlanta en Georgie, là, très violent. Et il fait de l'évangélisation dans les bas-fonds. Sa femme a rentré dans un club de lesbiennes pour aller parler de l'évangile. C'est-tu du zèle ou c'est pas du zèle? Ça, c'est du zèle. Mais quand il vient nous parler de ça, il nous dit, faites-vous-en pas si vous vous sentez pas à la hauteur. Allez chercher les ressources en Dieu. Parce qu'elle-même, elle disait, j'ai dit, j'avais du front, rentrer dans un club de lesbiennes pour aller évangéliser dans le club. Elle dit, oui, j'y vais. Je fais confiance au Seigneur. Ben, tu sais, ça donne une idée jusqu'à quel point on peut devenir zélé. Alors, on peut faire ça, on peut demander à nos amis d'assister à un culte avec nous. On peut aller voir des voisins, on peut les inviter. Coûte pas cher d'inviter. Des fois, on peut être surpris. On va y venir pas. Elle n'en a rien, elle ne voudra pas. Essaye à même dire qu'il ne viendra pas. Essaye. D'un coup, qu'il voudrait venir. S'il vient, tu l'exposes à l'Évangile. Puis il y en a qui ont été exposés à l'Évangile juste une fois. Puis ça a été la bonne. Alors, c'est, lui, l'idée qu'il essaye de nous inculquer, c'est de dire... Essayez de multiplier les contacts que vous avez avec les incroyants. De toutes sortes de manières que tu peux inventer de manière à ce que ça te donne une occasion qui entende l'Évangile, que ce soit toi qui lui donne, ou que ce soit un autre, ou que ce soit l'Église, mais au moins multiplier les chances. Très intéressant, peut-être revenir avec 1 Corinthiens 21, après ça on termine là-dessus, car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La Bible elle-même parle de l'Évangile comme étant une folie. C'est-à-dire, on l'a dit, puis le Seigneur est capable de sauver des gens par, justement, ça dit dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, que les incroyants considèrent ça comme une folie. Mais ça fait rien, on dit pareil. Alors, on se doit d'encourager la diffusion de l'Évangile aussi, en donnant de l'argent à des missionnaires. Et des fois, on peut être très peu porté, mais au moins, on peut aider financièrement et par la prière ceux qui sont sur le champ missionnaire. On le fait si peu. En tout cas, pour ceux que je connais. Alors, on termine là-dessus. 3 applications à partir de ce qu'on a regardé. La première application, prions le Seigneur de nous fortifier dans l'activité de l'évangélisation et de nous utiliser en tenant compte de nos talents, de nos connaissances, de notre cédule de travail, de notre famille, de notre situation et de notre lieu de résidence. Si tu présentes tes affaires au Seigneur, il est capable de tenir compte de tout ça, puis de te donner ce qui ira bien pour toi personnellement. Alors prions pour qu'il nous ouvre des portes et qu'il nous débarrasse de nos peurs et nous fasse voir la vie à la lumière de l'éternité. Je me souviens d'avoir lu un livre, c'était ça le titre. Il vivait sa vie à la lumière de l'éternité. Demande-le au Seigneur de toujours voir la vie et les gens qui t'entourent à la lumière de l'éternité. S'il décède, lui, là, il s'en va où? S'habituer à toujours penser comme ça. 2e application, sachons que le Seigneur peut nous habiliter, nous rendre capables à évangéliser et faisons-en une activité quotidienne, ne serait-ce que de donner un traité. quotidien, tous les jours. Troisièmement, planifions des activités d'évangélisation et méditons sur cette affirmation du pasteur baptiste célèbre Charles Spurgeon qu'il prêcha devant sa congrégation. Voici ce qu'il dit, on termine là-dessus. Il dit « Si je ne gagnais jamais d'âme, je soupirerais jusqu'à ce que je le fasse. » Autrement dit, il est en train de dire « Si j'aurais jamais eu connaissance que j'ai eu des âmes qui ont été sauvées par moi, je soupirerais auprès du Seigneur jusqu'à temps qu'il cède. » Autrement dit, il ne lâchera pas, comme on dit. Il dit « Je briserais mon cœur pour eux, et si je ne pouvais pas briser leur cœur, bien que je puisse comprendre la possibilité qu'un semeur sérieux ne récolte jamais, je ne peux comprendre la possibilité qu'un semeur sérieux se contente de ne pas récolter. » Autrement dit, il dit, je peux comprendre que tu n'as pas de résultat, mais je ne peux pas comprendre que tu te contentes de ça auprès de Dieu. Il dit, je ne peux pas comprendre qu'aucun de vous, chrétiens, qui essaie de gagner des âmes sans résultat, qui soit satisfait sans résultat. C'est son idée, et je trouve qu'il y a une super de bonne idée. Que le Seigneur, dans sa grâce, fasse de chacun de nous des gagneurs d'âmes pour sa gloire. Amen.
Amen.